voir l'impossible. On a parlé ce matin des souffrances qui peuvent arriver et j'ai parlé de nos attitudes, comment on réagit, comment on peut faire pour voir l'impossible. Et comme vous et moi, qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, qu'on soit au Canada, j'ai parlé que nous pouvons traverser chacune d'entre nous des tempêtes. Lorsqu'on parle de tempête, on parle de la douleur, la maladie, bien certain, les gens autour de nous, des pressions financières, les pressions de la vie, des problèmes de toutes sortes. Et si tu te prépares, Marie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais même si on connaît Dieu, des fois, on a l'impression qu'on a le monde entier sur nos épaules. Avez-vous l'impression? Hein? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir comme le monde entier sur vos épaules? Et pourtant, Dieu veut nous utiliser, Dieu veut agir dans nos vies. J'ai dit, les tempêtes ou les épreuves, souvent on dit que les tempêtes, les épreuves, ça forme notre caractère. Vous avez déjà entendu ça? Et pourtant, c'est vrai, il y a une portion qui est vraie, mais les épreuves, plutôt les tempêtes, les défis de la vie, dévoilent notre caractère. C'est à travers, des fois, la tempête, le défi, que ce qui est en dedans de nous, ressort. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Amen? Et j'ai dit, les réactions de nos vies vont déterminer notre portée dans la vie, notre destinée. Et j'ai dit ce matin que notre attitude déterminera notre attitude. C'est quoi une réaction? Une réaction, c'est simple par définition, c'est une manière de réagir face à un événement. Comment réagissez-vous, mes sœurs et messieurs, face à un événement de votre vie? Des fois, on réagit tellement mal qu'on peut même changer on passe du christianisme au bouddhisme, n'est-ce pas? Quand on réagit mal, on boude. Vous pouvez être des croyants qui adhèrent aux bouddhistes, n'est-ce pas? Et je fais des blagues, mais c'est assez facile de bien réagir lorsqu'on est en contrôle de la situation. Lorsque tout va bien, on est tous appelés à bien réagir. C'est une autre histoire de bien réagir quand on ne contrôle rien, quand on ne voit rien et quand on ne ressent rien. Commençons par les choses faciles. Dieu nous appelle à avoir une bonne réaction, un bon comportement tous les jours. Ça ne veut pas dire être parfait, des superwoman, mais comme croyant, on est la lumière du monde. On devrait, vous savez, une grande révélation pour vous. J'ai travaillé très fort. Toi, Grégory, au collège biblique, j'ai enseigné ça. Un croyant, mes sœurs, ça devrait être quelqu'un qui est gentil. Wow, c'est une grande révélation, hein? Merci, je prends mon vol, je repars lundi. Et vous riez, mais les gens nous regardent. Autant dans les moments de joie comme dans l'épreuve. Dans vos épreuves, vous pouvez être un témoignage. Nous prions pour le réveil, vous êtes le réveil. Nous prions pour le réveil, nous sommes le réveil. Parce que dans l'épreuve, la façon dont tu vas réagir, les gens vont dire, « Mais avec tout ce que tu traverses, c'est extraordinaire. Comment tu fais pour surmonter cette épreuve? » Comment je fais? C'est parce que je connais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que dans la prière, il renouvelle mes forces. Il me redonne une nouvelle façon. Alors, comment on réagit, c'est tellement important dans notre destinée. Et je vous fais une petite phrase bien simple, si tu mets l'image, Marie. Si vous êtes avec moi cette année, en 2017, pourquoi prier, pourquoi mieux vaut prier que de paniquer? Amen. Au lieu de paniquer, prions dans la tempête. Regarde ta voisine, dis, je vais prier au lieu de paniquer cette année. Dis-lui en arrière, en avant, dis-lui, je vais prier au lieu de paniquer cette année. Comment je fais pour prier au lieu de paniquer? Et ah, c'est beau, c'est mignon. Dites ah! Ça, c'est l'avantage d'avoir une personne féminine qui apporte la parole. Parce que nous, les femmes, c'est. Moi, j'ai montré ça à mes garçons, à mes amis, à mon mari, à mes garçons. Ah, super, ta photo. Pff, ils sont partis à autre chose. Et quand je montre ça aux femmes, ah! Il n'y a rien mieux qu'une femme pour comprendre une autre femme, n'est-ce pas? Et prions. Et comment on peut prier au lieu de paniquer? Comment on peut voir l'impossible devenir possible? J'ai deux points, mais je ne ferai pas les deux points. On va regarder à un seul point aujourd'hui. Comment je peux voir l'impossible arriver? C'est premièrement, nous ne devons pas regarder à notre situation. Et le deuxième point, on n'aura pas le temps de le voir. Je reviendrai. Il faut changer notre vision. Mais cet après-midi, je veux vraiment vous parler de Josué et comment Josué est un homme de la même nature que vous et moi et a vu l'impossible devenir possible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à sa situation. Il a regardé aux promesses de Dieu sur sa vie. Et si Dieu peut le faire pour Josué, il peut le faire pour vous, il peut le faire pour moi. Le récit qu'on va partager, c'est la prise de Jéricho. Si, dites-moi que tout le monde parmi vous avait sûrement entendu, si vous êtes allé en plus à l'école du dimanche, vous avez peut-être entendu des centaines de fois le récit de la prise de Jéricho par Josué et le peuple d'Israël. Faites-moi signe. J'ai un défi parce que je vais essayer de trouver une nouvelle clé que vous n'avez pas vue à travers ce texte-là. La Bible est tellement riche. Mais on va regarder comment, dans ce texte-là, on voit que le possible, le miraculeux a pu prendre place. Vous savez, le livre de Josué raconte la prise de Jéricho qui a eu lieu en 1407 ans avant Jésus-Christ. Et pour vous mettre dans le contexte historique, Josué organise, évidemment, avec les Hébreux, le siège de Jéricho. Rappelez-vous, ils ont envoyé deux espions. Ils sont allés voir. Et les deux espions étaient gardés chez Rahab, la prostituée. Et ils sont revenus. Et là, c'est à ce moment-là que Dieu donne la révélation à Josué. Vous la connaissez, c'est en Josué chapitre 6, au verset 2. Dieu parle à Josué et il lui dit, vous savez la stratégie, hein? Tu vas tourner une fois autour de la ville et tu vas voir les sacrificateurs, les lévites, ils vont chanter les trompettes, la harpe, cling, les anges. Et voilà, tu tournes une première fois. Ça, c'est ma version améliorée. Là. J'ai dit un peu de... Mais en fait, il passe avec les lévites et les sacrificateurs et les trompettes. Et après une fois, vous allez rentrer chez vous. La deuxième journée, vous allez sortir, vous allez faire le tour de la ville, ainsi de suite. Et vous savez, le jour 3, 4, 5, 6, 7, 7 une fois, 7 deux fois, 7... Et pendant la septième journée, ils ont tourné 7 fois. Et après le septième tour de la septième journée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui m'a fait ça? Qui a crié? Ouais! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ouh! Exact! Par la foi, ils se sont mis à crier et d'une façon surnaturelle, la muraille est tombée. Mais nous qui sommes assis ici bénis, et en passant, je voulais remercier l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut aussi les applaudir? Merci beaucoup pour votre travail exceptionnel. Moi, je ferai les tours de la ville avec vous en chantant avec les Lévites. Et quand Josué reçoit la promesse de Dieu, vous savez, je vous ai dit que c'était écrit à partir du verset 2. Mais en fait, l'histoire dans Josué chapitre 6 commence au verset 1. Et au verset 1, ça dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. » Et c'est par la suite que Dieu dit à Josué « Tourne autour de la ville. » Mais lui, Josué, ce qu'il voyait, c'était une muraille dont rien, et une muraille impénétrable. Rien sort, rien rentre. Ça a l'air simple. On a chanté, on a loué Dieu. On est assis ici, on digère, on se dit, c'est facile. Ils ont juste à crier, faire confiance à Dieu. C'était loin d'être simple. Parce que de ce qu'ils voyaient de leur perspective, on ne voyait rien. Et quand je vous parle de muraille, la muraille, si on peut mettre la diapositive, la muraille, j'ai étudié un peu les textes, et la muraille faisait 8 mètres de haut, il y avait des tours, et elle était très profonde. Donc, c'était une immense muraille avec des forteresses, et tellement profonde qu'il y a des gens qui habitaient sur la muraille, dont Rahab, la prostituée. Donc, quand Josué et le peuple d'Israël est face et que Dieu leur donne une promesse, eux, ils sont face à ça. Exactement ça. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle est vraie d'un couvert à l'autre. Elle est inspirée par Dieu. Et ce récit-là est pour nous aujourd'hui. Et Dieu t'a fait une promesse pour tes enfants qui allaient revenir à lui. Dieu t'a fait une promesse pour un rêve, un ministère. Et toi, en ce moment, ce que tu vois, c'est une muraille. Ce qui peut nous empêcher de voir l'impossible devenir possible, c'est notre perspective. Je veux vous encourager aujourd'hui ensemble que Dieu, et j'ai aimé, ouvre mes yeux, Père, je veux te voir, que Dieu change notre perspective, qu'il change notre vision. Ça dit dans les psaumes, donne à mes yeux la clarté, que nous ne puissions pas être dans le déni. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que ton jeûne ne consomme pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de santé mentale. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas pris dans de l'anxiété. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Comme Josué, la muraille, elle était vraiment là. Mais Dieu est plus grand que les murailles de ta vie. Dieu est plus grand que les murailles de la vie. Que Dieu puisse nous changer pour voir le miraculeux, il faut changer notre perspective. Deuxième point. Pour voir le miraculeux, il faut changer nos plans. Nous, les femmes, on aime ça avoir des plans. Êtes-vous d'accord? On planifie assez pas mal de choses. Et des fois, on dit, est-ce que vous dites ça en France, que les femmes sont parfois reconnues pour être contrôlantes? Contrôler les choses, contrôler les situations. Est-ce que c'est péjoratif, ça, ou ça se dit, ou ça se dit pas, Patricia? Quelqu'un qui gère. Est-ce qu'on dit gérer? Comment vous dites ça? OK. Oui, le contrôle, n'est-ce pas? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver que vos plans étaient meilleurs que ceux de Dieu? Non! Soyons honnêtes. Oups, c'est pour ça qu'il glisse. Oui, c'est ça. Je vais l'enlever parce que il va me déranger. Venez pas me voler, par exemple. Hein? Je fais des blagues. Est-ce que, quand je dis, on sait... OK, la réponse spirituelle, c'est vrai. Dieu a des meilleurs plans que nous. Mais la réponse, concrètement, des fois, il nous arrive des choses et il me semble que moi, j'aurais fait les choses différemment. Dieu t'emmène avec moi. Hein? Et c'est exactement ça qui arrive à Josué dans cette histoire-là. Vous savez, Josué, en hébreu, le premier nom avant de s'appeler Josué, il s'appelait Osée ou Oshéa. Et ça veut dire « celui qui donne la victoire ». Josué a remplacé Moïse. Moïse était reconnu pour être un grand prophète. Nul n'avait fait des prodiges comme Moïse. Mais Josué n'est pas dans la lignée des prophètes. Josué est un homme de guerre. Il est un guerrier et il s'appelait Josué, serviteur de Moïse. Josué est de la même nature que vous et moi. Et c'est un homme, quand Dieu l'a choisi pour aller conquérir Canaan, il l'a choisi avec ses forces. Et quand la mission était d'établir le peuple d'Israël en tribu, pensez pas qu'il a établi le peuple d'Israël en chantant des cantiques. Ils sont entrés en Canaan. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en Canaan? Des ennemis, des grands géants. Et comment ils ont pris possession? En faisant la guerre, en se battant. Et c'est pour ça que son nom était Josué, celui qui donne la victoire. Donc, le plan de Josué, c'était on va aller à Jéricho et on va aller se battre le couteau entre les dents et on va prendre la ville de Jéricho. Dans son plan, dans sa culture, dans qui il est. Mais Dieu avait des plans autrement. Et Dieu lui donne une stratégie complètement contraire à qui il est. Je veux que vous preniez le temps de réfléchir. Dieu peut te donner, me donner, des stratégies complètement contraires à qui je suis et ce que je suis. Amen. Dieu peut te dire, te demander aujourd'hui, si tu veux faire abattre les murailles, pardonne. Pardonne un mari, pardonne un père, pardonne une mère, pardonne un collègue, pardonne. Puis là, toi, tu te dis, pourquoi moi pardonner? C'est lui, c'est elle qui m'a meurtri l'âme. La stratégie de Dieu est différente de la tienne. Pourquoi Josué a vu le miraculeux? C'est que Josué n'a pas regardé à son arrière-plan. Il n'a pas regardé à ses forces. Il n'a pas regardé à ce qu'il était capable de faire. Il a uniquement fixer ses yeux sur la promesse de Dieu. L'obéissance déclenche la puissance. L'obéissance, mes amis, va déclencher la puissance de Dieu dans votre vie. Dieu peut-être va te dire, jeûne, mets un repas. Moi, cette année, j'avais un combat. Je vous ai dit, 2016 est une année difficile. Et j'ai fait un jeûne. Dieu m'a mis à cœur en début d'année. Et c'est pour moi, chacun, il n'y a pas de pression. C'est ce que Dieu vous met à cœur. Et Dieu, pour une situation dans ma vie, dans ma famille, le Seigneur m'a dit, cet esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Et j'ai jeûné, Raymond, elle le sait, j'ai appliqué le jeûne dans ma vie régulièrement, mais cette année, j'ai fait, chacun, il n'y a pas de pression, j'ai fait un jeûne de un mois spécifique, je n'ai pas juste avec de l'eau parce qu'il fallait que je travaille, mais j'ai mis des choses à part, sérieusement, tout le mois de janvier, et je me suis mise à part parce que j'ai beaucoup de conférences, j'avais des choses à ma maison, et j'aurais pu dire, qu'est-ce que ça fait de ne pas manger telle chose pour le salut d'un enfant. Qu'est-ce que ça fait sauter un repas? Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Le jeûne peut emmener le miraculeux dans votre maison. Un repas, une soirée, un repas, un midi, jeûner le cellulaire, l'Internet, tout ce que vous avez sur l'ordinateur. Peu importe, c'est pas, je ne veux pas vous condamner, je veux vous inspirer. Et je veux vous dire qu'essayez, si Dieu te met quelque chose de complètement farfelu dans ton cœur, mais ça peut être le plan de Dieu. Des fois, tu dis, comment peut être brisé tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, comment Dieu peut m'utiliser? Les plans de Dieu sont tout de suite. Ne regarde pas à qui tu es. Et vous savez, j'étais bénie de voir Raymond parce que Véronique était assise à côté de moi. Et quand on a commencé, Raymond et moi, elle était avec moi. Puis Raymond, tu étais réservée, hein, Raymond, tu étais toute timide. Et je disais, il y avait, comme ce matin, il y avait plein de femmes à l'appel. Et je lui ai dit, Raymond, viens prier. Oh non, moi je ne peux pas. Mais 7 à 8 ans plus tard, cette femme se tient debout ici devant vous. Avez-vous vu comment elle s'exprime avec aisance, avec conviction? Elle prie avec les femmes. Elle organise des conférences aux 4 coins de la France et accomplit par la grâce de Dieu des choses extraordinaires. Dieu a des plans pour toi. Comme Josué, il n'a pas regardé à ses forces. Et savez-vous, Josué, Dieu a changé son nom pour Josué Oshua, qui veut dire c'est le Seigneur qui donne la victoire. Alors, si tu te sens petite, si tu te sens faible, peu importe comment tu te sens, regarde, attends, fais, écoute le plan de Dieu et mets-le en pratique dans ta vie. Et vous savez ce qui est arrivé? Ils ont commencé à tourner et à tourner. Le troisième point qui peut nous empêcher de voir le miraculeux, j'ai dit, un, la perspective, si vous prenez des notes. 2, le plan. Sois ouvert au plan de Dieu. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu dis, sois obéissante car ça déclenche la puissance. Et troisièmement, cet après-midi, le progrès, le manque de progrès. Josué aurait pu passer à côté du miracle s'il avait regardé au progrès. C'est-à-dire que, vous savez, ils ont fait le tour avec tout le monde et ils tournaient une fois et ils sont rentrés chez eux. Imaginez ces guerriers-là quand leur épouse ou les gens autour de dire « Et puis, chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » Ben, on a tourné en rond puis on est revenu. OK? Ça va, hein, ça va. Une première journée, la deuxième journée. « Et puis, chérie, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? » Ben, on a tourné en rond puis on est rentré. Amen? Et n'oubliez pas que les Israélites, le peuple d'Israël, c'est la génération qui a suivi, Patricia dit oui, qui a suivi les gens, le peuple d'Israël, qui a tourné 40 ans dans le désert. Croyez-vous pas que ces gens-là ne savaient pas que les gens avaient eux autres avaient tourné 40 ans? Alors, après un tour, deux tours, je suis convaincue que ça a peut-être commencé à murmurer et dire, qu'est-ce qu'il nous dit, Josué? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a fait? Est-ce qu'on va tourner 40 ans autour de Jéricho? Pensez-y. La perspective, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Le plan est complètement farfelu. Et troisièmement, il tourne une fois, il tourne deux fois, puis il ne se passe rien. Comment ils ont pu penser qu'il allait se passer quelque chose? L'obéissance à Dieu déclenche la puissance. Et ils ont continué, malgré le manque de progrès, ils ont continué à tourner. Et moi, quand je dis des fois, j'ai des suggestions pour Dieu. Moi, mon cœur de mère, là, quand je les ai vus tourner, je me disais, je regarde l'histoire, moi j'ai l'imagination. Après un tour, bon, ça va. Après deux tours, OK. Mais après trois tours, s'il y avait un petit caillou qui était tombé, une petite roche de rien du tout, pensez-vous que ça les aurait encouragés? Êtes-vous avec moi? Ah oui? Mais rien, pas avant le septième tour, pas avant le septième jour et le septième tour. Et dans nos vies, bien souvent, le manque de projet peut nous décourager. C'est-à-dire que tu pries, tu pries, tu pries, il ne se passe rien. Tu pries, tu pries. Mais je sais qu'en Bretagne, Dieu répond tout le temps. Mais des fois, au Québec, ça se peut que ça ne répond pas tout de suite. Hello! La communication, des fois, est moins bonne, tu vois, on n'a pas le réseau. Et des fois, on aimerait que Dieu nous fasse voir un petit quelque chose. Et moi, je me dis que Josué et le peuple, s'ils avaient vu un petit caillou, ils seraient ressortis de la quatrième journée. Alléluia! Ils auraient chanté parce qu'ils espéraient qu'il se passe quelque chose. Mais la foi, c'est croire sans voir. Même s'il n'y a pas de petit caillou sur ta muraille, ça ne veut pas qu'il tombe, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir dans ta vie, dans la vie de tes proches, dans quelque chose. Tu es peut-être à un tour de voir la muraille tomber. Tu es peut-être à un tour de voir la muraille tomber. Et de tout mon cœur, je te dis, accroche-toi. Tourne, tourne, tourne par la grâce. Et Dieu, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Ne regarde pas à la perspective. Ne regarde pas au plan. Même si le plan te semble farfelu, obéis. Et troisièmement, regarde pas au progrès. Parce que Dieu est en train d'agir quand tu ne le vois pas. Et je vais finir avec deux témoignages. Et vous savez, moi, j'ai donné ma vie, je vous ai dit au début, à l'âge de 15 ans. Et j'étais la seule chrétienne de ma famille. Mon père, ma mère, ma sœur, personne ne connaissait Dieu. Et à 15 ans, je pense qu'ils auraient aimé mieux que je leur dise que je sortais en boîte, que j'aille à l'église. Est-ce que c'est pareil en Bretagne? Avez-vous déjà, quand vous avez donné votre vie à Jésus, avez-vous eu de l'opposition? Hein? Bon, alors moi, à 15 ans, là, mon père, ma mère, ils disaient, ah, elle est dans une secte, qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas d'allure. Et après ça, ils disaient, mais pourquoi notre fille, elle va dans une religion, puis ils ne connaissent pas que c'est une relation. Mais pourtant, elle n'a pas pris de drogue, elle n'a pas fait de vol de banque, elle n'a pas de problème. Je venais d'une famille à l'aise, alors ils ne comprenaient pas pourquoi que je suis allée à l'église. Mais je vous dis, je suis entrée, et le prédicateur a prêché, et j'étais percutée par la parole de Dieu. Et à ce jour-là, ça a été une transformation dans ma vie. Mais ça a été, pour mes parents, un choc. Et par la suite, mon mari, j'ai rencontré, vous savez, un des premiers miracles. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Il savait que, soyez persévérants, parce que dans l'église où moi je me suis convertie, il y avait majoritairement que des femmes, et les hommes qui étaient là avaient 95 ans et plus, voyez-vous? Alors, déjà, il ne fallait pas que je regarde à la perspective ni au progrès. Donc, j'ai déjà commencé à mettre ça. Et finalement, il y a eu un réveil. Il y a trois hommes qui sont rentrés, trois frères. Et tout le monde était certain que c'était leur mari, mais c'était le mien. Et merci Seigneur. Et mon mari il a donné sa vie à l'église. On a grandi ensemble. On a servi à l'église. Et moi, je faisais mes études. Mon mari était banquier. Et là, on a dit à mes parents, on va se marier à l'église chrétienne. OK. Alors, eux, il fallait qu'ils invitent leur ami à l'église chrétienne. Alors, ça a été déjà un défi. Après ça, quand on s'est mariés par la suite, mon mari a ressenti l'appel au ministère. Donc, on a vendu la maison qu'on avait sur Rimouski. On y a laissé son travail de banquier. Et il a dit, on s'en va à l'école biblique. Est-ce que vous croyez que c'était une bonne nouvelle pour mes parents? Notre fille qui marie un pasteur, c'est pire que pire. Et vous pensez que, mais moi, je priais toutes ces années-là pour qu'ils viennent au Seigneur. Et finalement, moi, j'ai fait mes études, j'ai fait mon doctorat, j'ai travaillé. Et là, une journée, j'appelle mon papa et je lui dis, papa, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais te dire que je laisse mon travail. Lui est médecin, alors sa fille en biochimie. Et moi, le regard de mon père, c'était précieux parce que c'était toujours une performance. Hein. J'étais aimée, il me disait, il m'a aimée, j'ai une parent fantastique. Mais souvent, dans mes cartes d'anniversaire, c'était nous t'aimons beaucoup car nous sommes fiers de toi. Tu sais, ce qui m'a poussée à faire des études avancées, d'avoir des bourses d'excellence. Parce que ça, c'était une façon de trouver l'amour, d'avoir l'admiration de mon père. Et imaginez le pas de foi quand je lui dis tout ce qui me semble pour moi cet objet d'admiration, lui dire, finalement, je voudrais te dire que je laisse mon travail et je vais aller étudier au collège biblique pour faire le ministère. Là, j'aimerais vous dire qu'il est tombé à genoux au téléphone et a dit, ah oui, ma fille, j'accepte Jésus dans mon cœur et je suis... Pas du tout. La muraille, là, il n'y a rien qui rentrait et il n'y a rien qui sortait. Je veux juste vous dire ça. Et ça n'aidait pas. Et finalement, le temps passe. J'ai l'équipe pastorale Nouvelle Vie et Dieu utilise toutes mes connaissances scientifiques que j'ai eues. Il utilise, il met à cœur d'écrire un livre sur « Lorsque la science et la foi se rencontrent », le livre qui est à l'arrière. Comment il est possible que toutes les notions scientifiques ne soient pas en contradiction avec la Bible, bien certain, et l'évolution et le Big Bang et la précision de l'univers et tous ces trucs-là. Et au Québec, bon, ça a été apprécié. Et la petite église où moi, j'ai donné ma vie à Rimouski, de 60 personnes, dans cette petite église-là, le pasteur m'invite. Et il me dit, j'aimerais que vous venez apporter la parole, une conférence d'évangélisation le dimanche matin, dimanche après-midi. Alors moi, je me dis, bon, c'est super. Alors je dis à mon papa, ma maman était décédée à cette époque-là. Je dis à papa, à cette époque-là, ça vous donne une idée, hein? J'ai 15 ans quand je me convertis, je suis rendue à au moins 35 ans. Fait que la muraille, là, je suis rendue à au moins 20 ans de prière où qu'il n'y a pas une petite roche qui est tombée. Hein? Et là, c'est pour ça que je trouvais que l'idée d'être un peu encouragée dans nos prières, ça ferait du bien. Mais, et là, je dis à papa, j'ai été invitée à faire une conférence sur la science et la foi à Rimouski. Est-ce que je vais aller coucher chez toi? Il dit, avec plaisir, ça va me faire plaisir de te recevoir. Et lorsque j'arrive le samedi, il dit, je vais aller t'écouter à l'église. 20 ans, je dis même plus que 20 ans parce que j'avais plus de 40 ans. Fait que, écoutez, faites la différence, là, je suis presque à 25 ans et bon, là, il n'y a plus d'âge. J'ai arrêté de compter à 40 ans, mais faites le calcul. Et là, il me dit, je vais aller t'écouter à l'église. Là, sur le coup, je suis contente, mais après, je suis envahie d'une peur. Il ne m'a jamais entendu apporter la parole. Il n'est jamais venu à l'église comme tel. Alors là, j'ai dit, c'est super. Alors, je ne vous dis pas que j'étais sur mes genoux toute la nuit. Le matin, je me lève, il est assis et il est prêt. Vous savez, le costume, la cravate, tout digne médecin. Et il dit, je vais être à l'église tout à l'heure, je vais venir t'entendre. Oh! Et finalement, c'est une petite église, 60 personnes, OK? Et la musique, ça n'avait rien à voir comme aujourd'hui. C'était une guitare gling, 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 comme ça. Et je fais ma conférence, et finalement, j'ai un moment de... Vous savez, sur 60 personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois? C'est certain que tout le monde sait que c'est lui qui est ici pour la première fois. Ça fait 30 ans qu'il n'y avait personne qui était là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, là, je suis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un la première fois? Super. Et là, je fais mon message. Et rendu à la fin, je me disais, il faut faire un appel au salut. Si quelqu'un ne connaît pas, comme je vais faire dimanche à l'église de Brest, si quelqu'un ne connaît pas Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, levez votre main. Et là, j'étais rendue quasiment, si vous êtes ici pour la première fois, si vous connaissez Dieu d'une façon intellectuelle, si vous avez deux bras, deux jambes, 10 doigts, c'est à vous que je parle, Dieu vous... Et là, j'étais rendue, et là, j'ai dit, baissez la tête, fermez les yeux. J'ai dit, entre vous et Dieu. Et là, bien sûr, tout le monde baisse la tête. Et là, j'ai dit, si vous voulez donner votre vie à Dieu, c'est entre vous et Dieu plus. OK. Si vous voulez donner de votre vie à Dieu, le cœur me fait mal. Et j'ose, ça me dit, fonce, vas-y, fonce. Et finalement, fais l'appel au salut. Et sur les 60 personnes, j'ai dit aux musiciens de s'avancer. Il n'y avait pas un musicien. Le guitariste était déjà parti. Donc, même pas de musique. Là, j'ai dit, je suis tout seul, vas-y. Et j'ai dit, sur les 60 personnes, j'ai dit, si quelqu'un, vous êtes ici dans ce lieu, Dieu vous a parlé, vous voulez le connaître personnellement, juste levez votre main. Et mon père a levé sa mère. Alléluia! Wouh! Wouh! Il a donné sa vie à Jésus ce dimanche matin. matin-là dans une église de 60 personnes à Rimouski. Quand je te dis ne regarde pas au plan, ne regarde pas au progrès, ne regarde pas au plan, parce que moi, mon plan, là, c'était que mon père allait venir à l'église Nouvelle Vie. Il y a des femmes, vous êtes venues, je ne sais qui m'ont dit vous êtes venues à Montréal. Celles qui sont venues à Nouvelle Vie, à Longueuil, vous savez c'est quoi, n'est-ce pas? Et la musique, le groupe Impact Jeune, Seb Cohn, tu sais, le fameux Allez, que vous avez chanté. Mais c'est magnifique à Nouvelle Vie. Il chante ça avec une chorale de 150 personnes. Et le pasteur Claude, moi, je voyais le pasteur Claude prêcher, avoir chaud. Puis là, il commençait à prêcher la parole. Et là, il chante le Alléluia à l'appel. Et là, je voyais mon père partir de l'allée, lever sa main. Oui, je donne ma... Et ça, c'était mon plan! Avouez que ça faisait plus de sens que... Et non! Dieu a choisi une petite église, pas de musique. Le guitariste qui est parti, une simple femme qui apporte la parole, mais Dieu a permis de me voir les murailles tomber parce que l'obéissance déclenche la puissance de Dieu. Mais ça, accrochez-vous à ça. Dieu est fidèle et Dieu va le faire. Ne regarde pas alors que les musiciens vont s'avancer tranquillement. Ne regarde pas la perspective. Ne regarde pas au plan. Ne regarde pas au progrès. Et savez-vous, quand je suis rentrée le dimanche après ça, mon père, c'est le seul, tu sais, Dieu ne fait pas les choses à moitié avec le beau témoignage de Patricia. Quand je suis rentrée, vous savez, je vous ai dit en début que j'ai cherché toute ma vie cette admiration-là de mon père sur la performance et tout ça. Et quand il m'a vu, il m'a dit, c'était extraordinaire ce matin. Il dit, j'ai ressenti quelque chose. Puis il m'a dit, je suis fière de toi, ma fille. Amen, je suis fière de toi, ma fille. Et je veux juste vous dire que maintenant, depuis ce jour, mon père me suit partout. Il m'appelle, il connaît mon vol. Quand je reviens, quand je pars, il sait en quel nuage je passe. Il sait la température. Il sait, il va sur Google Maps, il sait où je vais rester. Et il lit mon livre, Les pensées inébranlables. Il les lit, c'est un livre de femme. Il prend à cœur ce que je fais. Dieu a des plans merveilleux pour vous. Et la dernière chose, en terminant, il y a des plans personnels pour vos maisons. Le salut peut entrer dans vos maisons si on continue, on se tient, des femmes inébranlables. Mais aussi, je veux vous faire rêver un peu en terminant quelques instants. Il y a aussi une situation qu'on a vu Dieu agir cette année particulièrement à l'Église. Et c'était, quand moi j'ai commencé le ministère féminin, l'enseignement de la parole, il y a des groupes de femmes, de prière, des groupes de restauration. Mais moi, ce qui est beaucoup important pour moi, c'est les œuvres humanitaires. Raymond le sait, j'ai partagé plusieurs fois des choses, Marie aussi, qu'on a fait sur Nouvelle Vie. Et les femmes étaient impliquées à l'hôpital pour enfants malades, dans les foyers de personnes âgées. Il y a quelques années, j'ai eu à cœur de démarrer un ministère. Et moi, j'ai enseigné, j'ai prêché, j'ai apporté la parole sur une vision et les femmes ont pris à cœur cette vision-là. Si on peut mettre les images, Marie, des enfants du centre jeunesse. Et je vais finir. Ça, c'est une portion de l'histoire que vous avez entendue pour certaines qui me connaissent. C'est-à-dire qu'on allait dans les centres de protection de la jeunesse sur Montréal, à côté de l'église. Et comme femmes chrétiennes, on est allé les rencontrer. Puis on a dit, simplement parce qu'on a l'amour de Dieu, on aimerait faire quelque chose pour vous aider. Alors, on a visité les centres. Et si tu mets les prochaines... Ça, c'est des garçons, c'est pas les vrais, parce qu'on peut pas les identifier. C'est des garçons qui sont mis dans ces centres-là, pas pour délinquance. Ils sont placés là parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été abusés. Et toutes sortes de choses très, très difficiles. Mais malheureusement, voyez-vous, ils vivaient dans des centres comme ça. Les prisons à Montréal étaient presque plus luxueuses que ces enfants qui étaient victimes d'abus. Alors, on a eu à cœur, les femmes de mon église, d'aller et de changer les lieux, de peindre et regarder. On a demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils aimaient comme chambre. Il y en a qui c'était le hockey, le baseball, ainsi de suite. Alors, on a personnalisé des chambres. Mais je vous avoue qu'au début, c'était très, très, très difficile à percer. Pendant les 6 premières années, ils croyaient que c'était une secte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez endoctriner les enfants? On voulait donner, puis on n'était pas très bien reçus. Ouais. Et au fur et à mesure, on a continué, on a persévéré, on a fait ce changement-là. On a fait plusieurs centres comme ça. Mais à un moment donné, ça devenait difficile parce qu'on avait accès aux murs, mais on n'avait pas accès au cœur des enfants. Et moi, je me disais, Seigneur, je veux plus. Je veux aider, c'est certain, mais je veux qu'on ait accès. Et cette année, ou il y a un an et demi environ, avec la DPJ, parce que ça, si tu mets la prochaine diapositive aussi, on a gagné en crédibilité, les femmes. On était reconnues, comme nous appelaient les marraines, celles qui amènent la générosité. On était reconnues par les gens de la ville. Et toutes ces années-là de terre défrichée a emmené une crédibilité auprès des dirigeants de notre ville et de toute la Rive-Sud où j'habite. Et cette année, on a fait l'acquisition d'un bâtiment qui s'appelle le 2159, c'est le numéro civique, le 2159, là où l'espoir a une adresse. Et ce bâtiment acheté par l'Église chrétienne sert en collaboration avec les centres de protection de la jeunesse pour refuge pour les jeunes enfants après 10 jeunes adultes. Vous savez, la protection les protège jusqu'à 18 ans et après ça, ils sont à la rue. Mais maintenant, il y a un centre. Et cet édifice-là était construit sur un lieu où c'était un réseau de prostitution. Et il a été construit pour un centre des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et pour toutes sortes de raisons, ils ont mis cet édifice-là à vendre. Et l'Église a pu faire l'acquisition pour une bouchée de pain, je vous dis. Et il y a des cuisines communautaires, il y a des chambres, il y a plein de choses. Et ça, je veux juste vous encourager, si vous avez un rêve, on est parti en faisant la peinture, à peindre les murs, n'est-ce pas? Et année après année, puis à recevoir des coups et pas être tellement apprécié. Mais on persévérait. Mais pendant tout ce temps-là, on était en train de frayer un chemin pour ce qui allait prendre place aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire par le jeune garçon. Et je voudrais juste qu'on mette la vidéo. Et en terminant, je veux vous montrer cette vidéo-là parce que pour moi, au niveau du ministère, c'est un signe que lorsqu'on commence petit, qu'on défriche, Raymond nous a raconté qu'on a commencé 60 femmes, on était 1000 femmes. On a commencé dans un petit centre à aider et maintenant, nous avons pignon sur rue pour aider les jeunes filles prostituées, pour aider des jeunes garçons toxicomanes. Et beaucoup de ces... J'ai fait un cours de baptême et les jeunes qui sont dans ce centre-là, plusieurs, il y en a 3 que j'ai rencontrés qui vont prendre leur baptême la semaine prochaine. Alléluia! Alléluia! Et on va mettre la vidéo juste pour vous montrer. On a fait l'inauguration. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, c'est tellement significatif. Les politiciens étaient là, les policiers, les travailleurs sociaux qui étaient là en collaboration avec l'Église de Jésus-Christ. Dieu peut faire tomber les murailles, mes amis.